Cette méditation vient d'une réflexion concernant les différents objets que nous trouvons dans le lieu saint et autour de la tente d'assignation lorsque Dieu donne à Moïse tous les plans pour la construction de la maison de Dieu, la maison provisoire de Dieu, hein, la tente dans le désert. Et donc, au chapitre 37 et 38, on voit différents éléments qui nous sont décrits. On voit l'arche de l'Alliance, la table de bois d'acacia, c'est-à-dire l'endroit où on déposait les pains de proposition. Il y a le chandelier qui est décrit, l'autel des parfums, de quelle manière l'huile devait être utilisée avec l'autel des parfums, l'autel des holocaustes. Et puis, il y a aussi un autre élément dont on ne parle peut-être pas assez, c'est la cuve d'airain. Cette cuve d'airain était placée en dehors de la tente d'assignation, et plus tard, quand le temple va être construit, il va se retrouver sur le parvis. Alors, je me rappelle plus exactement les dimensions, et d'ailleurs, on n'est pas sûr, hein, les commentateurs sont pas tous d'accord sur la dimension éventuelle de la cuve, parce que en réalité, il n'y a pas les dimensions. Donc, on ne les a pas, mais à travers les recherches et puis par déduction, il semblerait qu'elle était énorme en réalité. Ce que l'on sait, c'est qu'il fallait un escalier pour monter sur cette cuve d'airain, et en haut de l'escalier, si vous voulez, il y avait comme une petite terrasse. Et donc, elle devait faire cette cuve plusieurs mètres de diagonale. Et donc, c'était énorme en réalité. Et le sacrificateur ou les sacrificateurs qui représentaient le peuple, donc évidemment, ça nous parle à nous aussi de notre relation avec Dieu et la manière de nous approcher de lui. Le sacrificateur devait se pencher et se faire comme des ablutions, c'est-à-dire laver son visage et laver ses mains. Alors, on sait, ça c'est un détail que l'on voit un peu plus tard, c'est que cette eau était en fait une mixture qui était préparée une fois par an. Et donc, il y avait une vache rousse, hein, vous avez peut-être entendu parler de la vache rousse dans le Pentateuque. Donc, c'était une vache qui devait être parfaite, sans tache, pas une tache blanche, rien, elle devait être entièrement rousse. Pour l'anecdote, hein, il y a des juifs très engagés aujourd'hui, des religieux qui essayent de trouver une race de vache rousse dans l'éventualité de la reconstruction du temple, parce que s'il n'y a pas de vache rousse, il n'est pas possible, c'est impossible d'y avoir un culte, puisqu'il faut cette eau particulière fabriquée avec la vache rousse, et donc la vache rousse doit être parfaite, et apparemment ils ont du mal à trouver des vaches qui soient sans tache. Et cette vache était sacrifiée une fois, donc il y avait une vache rousse qui était sacrifiée une fois par an. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est le seul sacrifice. Alors, à part les offrandes de gâteaux, puisque les offrandes de gâteaux, il n'y a pas de sang et c'est pas un animal. Mais c'est le seul sacrifice où le sang est conservé avec l'animal. C'est-à-dire que l'animal n'est pas immolé et donc l'animal est entièrement brûlé avec son sang. Et donc, ça devient de la cendre et cette cendre était mélangée avec de l'eau. Et donc, cette eau était placée dans la cuve d'airain. Et cette cuve était le symbole de la purification, où les prêtres se purifiaient avant de pouvoir entrer dans le lieu saint. Et a fortiori, une fois par an, le grand souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint. Et donc, cette eau était là stagnante, mais en même temps efficace, puisque grâce à la vache rousse, le sang était dans l'eau en réalité, puisque l'animal avait entièrement été consumé avec son sang. Donc, le sang, et ça nous renvoie dans la première épître de Jean, vous savez, lorsque Jean nous dit au chapitre 1, « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner, et son sang nous purifie de toute iniquité. » Et le temps qui est utilisé là, en grec dans 1 Jean, c'est un présent continu, c'est-à-dire que le sang est en train de nous purifier de toute iniquité. Et c'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'on confesse ses péchés, quand on se met en règle avec Dieu, non seulement nos péchés donc sont purifiés, alors ils l'ont été une fois pour toutes lors du salut, mais là ça nous parle de la purification liée à une relation avec Dieu, c'est-à-dire que je dois être au clair avec le Seigneur. Mais ce qui est beau aussi avec le symbole de cette purification permanente, et l'eau dans la cuve d'airain nous montre ça, puisque ce sont les ombres des choses spirituelles que nous vivons aujourd'hui, le sang de Christ nous purifie de tout péché, mais en grec, là, lorsqu'il est dit de tout péché, ce sont même les péchés que je ne connais pas et que je ne peux pas confesser. Et ça, c'est beau parce que s'il fallait confesser tous les péchés, il faudrait tous les connaître, il faudrait les connaître tous. Et on n'aurait du coup jamais accès à Dieu puisqu'on ne peut pas connaître tous nos péchés. Et il n'y aurait pas de sanctification possible, c'est-à-dire qu'il faudrait être parfait pour pouvoir être dans la présence de Dieu. Que ça soit, alors, nous sommes parfaits en Christ s'agissant de notre position, mais il faudrait aussi être parfait dans notre expérience. Or, par définition, si on doit grandir en Christ, ça signifie qu'aujourd'hui, on n'est pas encore parfait. On est en train d'apprendre, on est en train de grandir, on est en train de découvrir certaines choses. Il y a des leçons que le Seigneur nous a pas encore enseignées. Donc, ça n'empêche pas que nous avons tort, nous péchons, mais on n'en est pas conscient. Mais le sang de Christ nous purifie de tout péché. En revanche, ce que Dieu nous demande, c'est les péchés que je connais, de les présenter devant lui, de les confesser, et du coup, l'efficacité du sang est expérimentée dans ma vie chrétienne. Donc, je suis purifié de mes péchés connus et aussi de mes péchés inconnus. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit m'approuve. Il y a une onction sur ma vie, pas parce que je suis parfait, mais parce que je suis au bénéfice de cette action qui consiste à se pencher vers cette cuve des reins et de se mettre en règle avec Dieu, c'est-à-dire de se purifier. Mais c'est pas nous, par nos actions et par nos œuvres, qui nous purifions. C'est encore le sang de Christ, ce sang de la vache rousse qui était dans l'eau. Et lorsqu'on lit Exode chapitre 38, verset 8, et c'est la réflexion vient de ce verset-là, en Exode 38, verset 8, il est dit, il fit la cuve d'airain, donc il, c'est Moïse, mais en réalité, ce sont tous les ouvriers qui ont travaillé avec lui. Il fit la cuve d'airain avec sa base d'airain, en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Alors là, il y a quelque chose d'un peu humoristique, sans faire d'antiféminisme, de discours genré, comme on dit aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, là, c'est de voir qu'il y a eu un sacrifice de fait. C'est-à-dire que les femmes ont offert leur miroir à Dieu pour fabriquer la cuve d'airain. Et là, il y a beaucoup d'enseignements qui sont tirés de ce verset. D'abord, il faut savoir une chose, c'est que le peuple de Dieu venait d'Égypte. Ils ont été pendant près de 4 siècles, ils sont devenus esclaves, mais en tout cas, ils ont d'une certaine manière été imprégnés par la culture égyptienne. Et donc, ce que va faire le Seigneur, c'est non seulement de les délivrer une fois pour toutes de l'esclavage en Égypte, mais c'est pas parce qu'on est délivré au niveau de notre statut, notre position, que dans nos pensées, on est délivré. Et donc, le problème du peuple juif quand il était dans le désert et leur incrédulité devant la frontière de Canaan le montre, c'est qu'ils n'avaient pas une âme de guerrier. Ils avaient été esclaves pendant 4 siècles. Et donc, il va falloir que Dieu éradique une génération et en prépare une nouvelle qui n'aura jamais été esclave, à part Josué et Caleb, pour qu'ils deviennent des guerriers. Et donc, Dieu va se plaire, et il continue de le faire dans notre vie, pour enlever des choses de notre ancienne manière de vivre, qui sont liées au système de ce monde, à la chair, voire liées aux initiations du diable et du royaume des ténèbres. D'ailleurs, on le voit quand Moïse est en haut de la montagne, et qu'il reçoit les tables de la loi, et qu'en bas de la montagne, l'incrédulité grandit, qu'est-ce que le peuple va faire? Ils vont construire un veau d'or. Mais ce veau, c'était en fait une image d'une idole égyptienne, parce que en Égypte, ils adoraient un taureau qui était, je crois, un des dieux de la fertilité. Donc, Dieu va devoir élaguer tout ça. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que dans les sacrifices d'animaux, Dieu va toujours demander que les entrailles soient offertes à Dieu. C'est-à-dire que les entrailles ne seront jamais préparé par l'homme pour en faire un repas. Le croyant ne pourra pas manger le foie, par exemple. Tout ça doit être donné à Dieu, parce que dans les peuplades environnantes, et en Égypte en particulier, on essayait de lire l'avenir dans les entrailles. Et donc, en offrant les entrailles des animaux à Dieu, le symbole, là, c'était « je confie mon avenir à Dieu ». C'est-à-dire que j'essaye pas de le connaître. Mon avenir est entre les mains de Dieu, c'est pas à moi de savoir, c'est pas à moi d'essayer de deviner les choses, et c'est pour ça qu'on ne devait pas aller voir des voyants, des voyantes, et donc c'est un symbole là de cette purification, c'est-à-dire que Dieu enlève des vaines manières de vivre. Et en Égypte, les femmes égyptiennes, quand elles visitaient les sanctuaires et qu'elles elles étaient comme dans des cortèges, et elles avaient un miroir à la main gauche. Alors, je ne sais pas exactement pour quelles raisons, j'ai pas trouvé les raisons. Et puis, ce qu'on appelle un sistre à la main droite. Alors, un sistre, c'est un instrument de musique à percussion, c'est un peu comme un tambourin, sauf que ce qui faisait le bruit, vous savez, quand vous agitiez l'instrument, c'était pas des toutes petites cymbales qui s'agitent, c'était des coquillages. Et donc, elle faisait de la musique avec un sistre, donc une sorte de tambourin, et en même temps, elle présentait un miroir. Et là, qu'est-ce que Dieu va demander en fabriquant la cuve d'airain? C'est de donner ces miroirs à Dieu. Et donc, avec ces miroirs, ils vont fabriquer cette cuve d'airain. Et là, ça nous parle d'un principe important, c'est que pour se présenter à Dieu et rentrer dans un processus de purification, il faut s'abandonner totalement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se regarder. Parce que le problème de l'ego, c'est qu'il se regarde. Regarde ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai dit, regarde ce que je pense. C'est-à-dire qu'on essaye de présenter une image. Et plus on vit ainsi, moins c'est l'image de Dieu qui est manifestée. Et donc, Dieu la demande à ce que on donne l'image de soi, peu importe le jugement qu'on en a. Il peut y avoir, une illustration physique, on peut se regarder dans un miroir et se trouver moche, on peut se trouver moyen, on peut se trouver beau. La question n'est pas là. Il faut qu'on donne ça à Dieu. Alors évidemment, si on a un jugement positif sur soi, sur nos idées, nos pensées, etc., c'est beaucoup plus dur de donner ça à Dieu. Là, les femmes, qu'elles soient belles ou moins belles, peu importe leur aspect physique, elles devaient donner le miroir. Et alors, il faut se placer dans le contexte, parce qu'aujourd'hui, on a oublié ça. Imaginez qu'à l'époque, il n'y avait pas les photos, il n'y avait pas les films, il n'y avait pas... C'est-à-dire qu'il était très difficile de se voir. Et d'ailleurs, les miroirs ne sont pas les miroirs qu'on a aujourd'hui, qui sont presque une représentation exacte de la réalité. Les miroirs n'ont pas de défaut. Là, l'airain dont il est parlé, où c'est une sorte de bronze, renvoyait une image très approximative. C'est pour ça d'ailleurs que les gens riches avaient des serviteurs, des esclaves, pour les embellir, parce que là, il n'était pas question de s'épiler avec un miroir de l'époque. Hein. C'était impossible, c'était pas assez précis. Donc, vous voyez, l'image de soi était différente de l'image qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est du narcissisme permanent. On se regarde, là je vous vois, vous me voyez, donc c'est l'image de nous-mêmes est partout, et ce n'est pas que matériel, c'est aussi spirituel. On exalte tellement l'homme aujourd'hui. Mais l'humilité, c'est pas de dire « Oh, je suis nul, le Seigneur est super, donc je m'humilie, allez, je me mets à genoux ». Ça peut être ça, mais il y a une autre sorte d'humilité qui va avec. C'est pas l'un ou l'autre, hein, mais il faut les deux. C'est « Ah, je suis très doué dans ce domaine, mais je m'humilie quand même devant Dieu. Je renonce à ça. » C'est-à-dire que je renonce à tout. C'est l'image que j'ai de moi, qu'elle soit bonne ou pas. Celui qui a pitié de soi, qui se lamente en disant « Je suis nul et tout », c'est pas forcément de l'humilité s'il garde le miroir avec lui. Il peut regarder son miroir et se dire « Oh là là, qu'est-ce que je suis moche, je suis moins bien que les autres », mais il reste dans un système de comparaison humain. Mais ça ne veut pas dire qu'il se donne à Dieu. Donc, j'ai pas assez de dons, j'ai pas tel appel, j'ai pas la vie réussie comme celle de mon frère ou de ma sœur. Enfin voilà, je peux me comparer, mais c'est pas de l'humilité, ça. C'est un classement. Alors qu'en réalité, l'humilité, ça m'a toujours marqué cette phrase que Pasteur Stevens avait dit lors d'un temps de questions-réponses il y a longtemps, donc maintenant. Il avait dit, je n'ai pas... Alors, il l'a dit, ça ne veut pas dire qu'il arrive à le vivre. Hein, c'est une phrase impossible à vivre au jour le jour. Mais idéalement, il dit, je ne dois pas avoir une bonne opinion de moi, ni avoir une mauvaise opinion de moi. Je ne dois pas avoir d'opinion sur moi, parce que je suis mort en Christ. Et c'est vers cela qu'on doit tendre. Et c'est ce symbole-là de ces femmes qui donnent le miroir, c'est qu'elles acceptent de ne plus se regarder. Donc, on va regarder à Dieu. On n'a plus le choix. Si on n'a plus de miroir, nos yeux sont tournés soit vers les autres, soit vers Dieu. Et après, la cuve d'airain était fabriquée avec ces miroirs, Et les prêtres qui utilisaient cette cuve pour se purifier au nom du peuple, c'est-à-dire pour se purifier de leurs péchés à eux, mais au nom du peuple aussi, puisqu'ils représentaient le peuple en entrant dans le lieu saint. Donc, ça parle de notre relation avec Dieu aujourd'hui. Ce qui est très intéressant, c'est quand les sacrificateurs se penchaient vers la cuve d'airain, là, ils se regardaient de nouveau. Là, il y avait un miroir. Mais ce miroir était le résultat de l'œuvre de Christ. La purification des péchés, c'est-à-dire que mes péchés, vous rappelez, dans un psaume, il y a un verset où il est dit « mes péchés sont au plus profond de la mer ». Ben là, le sacrificateur se regardait et se faisait ses ablutions et il savait que ses péchés étaient ensevelis dans cette eau et là, il pouvait se regarder dans l'eau. Et ensuite, il pouvait rentrer dans la présence de Dieu. Donc, ce sacrifice-là qui consiste à donner le miroir est un élément important parce que c'est un renoncement de soi où on met de côté le moi, l'ego, pour rentrer dans la présence de Dieu. Et on met de côté le moins bon comme le meilleur. C'est pas le souci. Et nous avons donc dans ce symbole de la cuve d'airain à la fois le renoncement. Mais alors quand on parle renoncement, ça ne plaît pas parce que évidemment on a du mal à renoncer à certaines choses, à notre culture, à notre façon de vivre, des habitudes, encore une fois des façons de penser. Mais la bénédiction qu'il y a derrière ça, c'est que quand il y a renoncement, il y a forcément purification. Ça va avec. C'est pas simplement j'offre mon miroir, mais en retour, il y a la purification de mes péchés. C'est-à-dire que je deviens ami de Dieu, c'est-à-dire que je rentre dans la présence de Dieu. C'est en gros, je renonce à tout, je renonce à moi. C'est le pendant de ce verset de Jésus, hein, celui qui veut me suivre, il doit prendre sa croix chaque jour et renoncer à lui-même. Donc en renonçant à soi, nous obtenons quelque chose, qui est la purification, c'est-à-dire que nous sommes au bénéfice de l'œuvre de Christ. Il y a l'approbation de Dieu. Le sang de Christ purifie nos consciences. Donc en réalité, il y a un gain. D'un côté, on y voit une perte, c'est vrai, et en même temps, c'est pas simplement je donne quelque chose à Dieu et puis voilà, il va faire des économies, je lui donne des choses. Dieu, il a pas besoin des choses qu'on lui donne, hein. Il est riche. Il a même pas besoin de nos pensées, de nos bonnes actions. Il s'en fiche. Mais par contre, ce qu'il veut, c'est une mort à nous-mêmes pour que lui puisse nous donner la vie. En Exode chapitre 30, verset 20, il est dit, en parlant des prêtres, lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Donc on voit que c'était un passage obligatoire. Ils pouvaient apporter tous les sacrifices possible, c'est-à-dire tous les animaux, mais pour apporter ces sacrifices d'animaux, il fallait qu'ils passent dans cette eau purifiée. Et il y a un verset qui est très joli et qui s'adresse à Israël, notamment lors du retour de Christ et le royaume millénaire, mais on y voit une application spirituelle pour nous aujourd'hui, bien entendu, puisque aujourd'hui nous sommes dans cette parenthèse de l'Église. En Zacharie chapitre 13, verset 1, alors que le peuple est en train de reconstruire le temple. Hein. Zacharie, c'est un prophète qui a été envoyé. D'abord, nous avons Agé, qui a été envoyé par Dieu pour sermonner le peuple qui ne reconstruisait pas le temple à Jérusalem alors qu'ils étaient revenus de Babylone. Ils reconstruisaient leur maison. Néhémie va aussi constater ça. Alors lui va s'occuper de la reconstruction des murailles. Mais Agé va être envoyé pour sermonner le peuple en disant c'est pas vos maisons que vous devez reconstruire d'abord, c'est le temple. Et ça, c'est un symbole des priorités dans l'existence. C'est-à-dire que avant de reconstruire quelque chose, c'est peut-être des fois un chantier, notre vie, on a fait des erreurs, soit. Il y a besoin de reconstruire des choses, mais la première chose qu'on doit reconstruire, c'est notre communion avec Dieu. Donc, on reconstruit le temple d'abord. Et les choses matérielles, les ennemis de l'extérieur, peu importe, Dieu va s'en occuper. Donc, Agé va dire ça. Et donc, le peuple va obéir à Agé. Et Zacharie, lui, va venir dans un deuxième temps pour encourager les gens qui travaillent au chantier parce que, ben voilà, en même temps, c'est un gros chantier et ils sont des fois découragés. Donc, Zacharie leur fait des promesses et des promesses aussi concernant un royaume à venir, pas uniquement des promesses à court terme, même s'il y en avait. Et donc, au chapitre 13, verset 1, il y a cette promesse où il est dit « En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. » Voyez cette eau qui purifie, une source qui purifie. Alors après, on la revoit cette source dans Ézéchiel notamment, et on voit qu'elle part du lieu très saint pour sortir de plus en plus à l'extérieur du temple, puis à l'extérieur de la ville, pour aller jusque dans la mer morte. Et ça, c'est un extraordinaire symbole, parce que non seulement ce fleuve, cette eau purificatrice qui viendra du trône de Dieu, du trône de miséricorde, du Saint des Saints, cette eau va être une eau purificatrice, mais ce qui est très intéressant, c'est selon la description qui est faite en Ézéchiel, il n'y a aucun affluent. C'est-à-dire qu'il y a une source qui sort du temple, et au bout d'un moment, ça devient un ruisseau, ça devient un fleuve qui monte, qui grandit de plus en plus, sans qu'il y ait de pluie, sans qu'il y ait d'affluent. Et ça nous parle du principe de la vie éternelle. C'est-à-dire que la vie éternelle grandit en elle-même. Elle n'a pas besoin d'apport extérieur. Et ça, c'est notre communion qu'on peut avoir avec Dieu. C'est-à-dire que c'est la vie de Christ qui grandit. Oui, je perds, et en même temps, il y a quelque chose qui grandit en moi. Parce que c'est cette source. Et c'est cette source qui s'occupe de mon péché et de cette impureté. Et c'est intéressant parce que marcher avec Dieu, on voit que ça provoque plein de choses spirituelles, mystiques presque. Quand vous lisez toujours la première épître de Jean, il est dit par exemple que lorsqu'on se concentre sur l'avènement du Seigneur, quand on a cette attente, on se purifie en pensant à cela. C'est-à-dire que ça produit un phénomène de purification. Donc en permanence, on voit que Dieu agit alors que nous marchons avec Dieu. Et c'est valable dans tous les domaines de la vie. Par exemple, là, on est ensemble, les conditions font que, ben voilà, on est en visioconférence, mais on fait rien. On est là, enfin moi je fais quelque chose, d'accord, mais vous ne faites rien, c'est-à-dire que vous êtes assis, vous écoutez, mais l'écoute de la parole de Dieu produit quelque chose, mais c'est Dieu qui le fait. C'est pas notre intelligence, c'est pas parce qu'on est meilleur qu'un autre. Jésus est clair, il remercie le Père en Jean chapitre 17 de ce qui s'est révélé aux gens simples, donc c'est pas une histoire d'éducation, d'intelligence ou autre, c'est simplement une humilité, c'est-à-dire que quiconque veut venir à Dieu obtient une révélation et la purification de ses péchés. Ça, c'est le salut, mais c'est aussi la sanctification. Ça continue en permanence. Ce sont des guérisons permanentes. Et donc, à la seconde venue de Christ, une source jaillira, une source sera ouverte. Et nous avons cette source qui a jailli de notre cœur jusque dans la vie éternelle. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans l'Ancien Testament, cette eau de la cuve d'airain, il y a un paradoxe parce que si on lit par exemple en Lévitique chapitre 15, il y a pas mal de rituels de purification et à chaque fois ces rituels de purification doivent être faits avec de l'eau vive. Alors là, ce sont pas les prêtres qui se purifient, ce sont les croyants. Donc ça se passe pas dans le tabernacle, dans le temple, ou autour du temple, ou autour du tabernacle. Ça se passe dans la vie courante. Mais si quelqu'un, par exemple, touche quelqu'un impur, touche un vase impur, le vase doit être brisé, et ensuite la personne doit se purifier. C'est toujours avec de l'eau courante, c'est jamais avec de l'eau stagnante. En revanche, s'agissant de la purification sacerdotale, c'est-à-dire la cuve d'airain, là c'est une eau stagnante. Il y a un paradoxe. Mais pourquoi il y a ce paradoxe? Parce que Dieu veut montrer que oui, il y a le sang de Christ dans cette eau, donc la purification agit, mais la loi, ça reste stagnant quand même. C'est pas la vraie vie. C'est dans l'attente de la vraie vie. La vraie vie, c'est une source. C'est de l'eau qui jaillit. C'est de l'eau en mouvement. C'est pas un marais, c'est pas un lac. Et donc, quand l'œuvre de Christ est accomplie, ou quand le royaume millénaire s'accomplit, en tout cas, quand la justice de Dieu s'accomplit, et une justice qui va bien au-delà de la justice propre ou de la justice des hommes, que se passe-t-il? Il y a une eau vive qui jaillit en nous. Et c'est ce qui se passe en fait dans notre vie. C'est-à-dire que parfois quand on se repent de certaines attitudes, quand on a du mal à revenir à Dieu, mais quand on le fait, qu'on plie le genou devant Dieu, qu'on s'humilie, il y a une eau vive qui a rien à voir avec l'eau stagnante. Il y a quelque chose qui nous pousse, il y a une joie du salut qui devient notre force parce que c'est une source, un ruisseau. Et la vraie source en réalité, alors elle n'est pas nommée ainsi, hein, c'est moi qui l'interprète comme ça, mais c'est la source qui est sortie du côté de Jésus à la croix. Lorsque Jésus est mort à la croix, vous souvenez, il y a un soldat romain qui perce le côté de Jésus, et de qu'est-ce qui sort là? Il sort de l'eau et du sang. C'est-à-dire que vous avez le sang de Christ qui paye le prix de nos péchés, et vous avez l'eau qui permet la purification et la sanctification. C'est pour ça que l'apôtre Pierre parle, par exemple, de l'eau de la parole. La parole de Dieu nous purifie aussi, purifie aussi. C'est-à-dire que la parole est une source d'eau vive dans notre vie. Et l'Église est née du côté de Jésus-Christ, tout comme Ève est née du côté d'Adam. Et l'Église, l'épouse, est issue de cette fontaine, d'une certaine manière, liée au sacrifice de Christ, qui est sortie du côté. On voit ça en Jean 19, 34. Un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Et donc, je terminerai par un passage de... Enfin, je ne sais pas si je vais terminer là-dessus, là, il me reste encore un peu de temps. Mais en tout cas, j'aimerais qu'on lise un extrait du psaume 26, et on va lire les 6 premiers versets. Psaume 26, versets 1 à 6. Donc, c'est un psaume de David, où il est parlé de la justice et des péchés, de notre vie avec Dieu. Et il écrit ceci. « Rends-moi justice, Éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. » Et c'est intéressant, là je m'arrête un instant parce que il parle d'intégrité et de vérité. L'intégrité et la vérité, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. L'intégrité et la vérité, c'est toujours en lien avec les pensées de Dieu. Par exemple, Dieu dit que je suis pécheur, je le reconnais, donc je suis intègre. Dieu dit que je dois renoncer à certaines choses, j'accepte, donc je marche dans la vérité, dans l'intégrité. C'est-à-dire que être vrai ou intègre, ça ne veut pas dire être propre sur soi. C'est simplement se confesser, reconnaître nos fautes. David, par exemple, est redevenu intègre lorsque Nathan lui a annoncé qu'il avait commis un meurtre et commis adultère, et David remarche dans la vérité, dans l'intégrité. Il ne se justifie pas et il s'attend à Dieu. Dieu reprend son fils, il l'accepte parce que David est intègre. Et donc, il dit sous ceci, « Ta grâce est devant mes yeux. » Qu'est-ce qui nous permet d'être intègre et vrai devant Dieu ? Et d'oser le faire, parce que faut oser, devant quiconque d'ailleurs, hein, mais devant Dieu en particulier, c'est il faut oser avouer qu'on n'est pas parfait. Il faut oser avouer qu'on a tort. C'est pas évident. On a du mal. Pourquoi ? Parce que d'abord, on est orgueilleux. Puis la deuxième chose, c'est qu'on a peur d'un jugement. On a peur de pas être accepté. Mais la raison pour laquelle David peut le faire, car ta grâce est devant mes yeux. Lorsque je regarde Dieu, lorsque je renonce à Dieu, est-ce que c'est la grâce ? Quand je renonce à moi-même, pardon, est-ce que c'est la grâce qui est devant mes yeux? Lorsque le prêtre faisait ses ablutions, là je spiritualise le geste, mais il pouvait voir son visage dans l'eau, mais il pouvait voir la grâce aussi, c'est-à-dire le sang de la vache rousse dans l'eau. Et donc il était au bénéfice, son visage, son reflet était au bénéfice du sang de Christ. Donc la grâce doit être devant nos yeux. C'est très difficile de se repentir si c'est pas la grâce qui est devant nos yeux. Si c'est la colère de Dieu devant nos yeux, si c'est notre culpabilité qui est devant nos yeux, notre honte, etc., etc., notre idée que l'on se fait de Dieu, ça fonctionnera pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, quand il est dit que l'humilité précède la gloire, c'est en fait, on renonce à soi, encore une fois, ça peut être les bonnes ou les mauvaises choses, et qu'est-ce qu'on obtient ? C'est la gloire, mais c'est pas une gloire liée à ce monde, c'est la gloire de Dieu qu'on reçoit. C'est-à-dire que lorsqu'on a plié les genoux devant Dieu et qu'on a accepté Christ, on a reçu la gloire de Dieu. L'humilité précède la gloire. C'est une gloire qui vient de Dieu. On ne devient pas des champions forcément. La preuve, Paul dit, lorsque je suis faible, je suis fort. Mais lorsqu'il est faible et qu'il renonce à lui-même et que même il accepte les difficultés de la vie, le fait qu'il soit réduit à rien, mais le fait d'accepter ça lui permet d'obtenir dans son expérience, la justice de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, les miracles de Dieu. Et donc, il dit, là je reviens à David, « Car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec les méchants. » Et regardez ce verset 6 là. « Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel. » Là, ce verset, c'est exactement la description du prêtre autour de la cuve des reins. C'est-à-dire qu'il se lave les mains dans l'innocence. Mais ce qui est très intéressant, et j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, vous connaissez tous cette, cette scène évidemment des évangiles où Pilate se lave les mains lorsque finalement il dit « bon, ben moi j'abandonne, vous voulez tuer Jésus, en fait si vous le faites, ce sera de votre faute, moi je m'en lave les mains ». Mais cette expression existait déjà au temps où David l'a écrit, c'est-à-dire que ça signifiait qu'on se déchargeait de toute responsabilité pour un crime commis. Donc c'est ce qu'a dit Pilate. Il a dit Pilate, si c'est de l'injustice qui est en train de se faire, moi je m'en lave les mains. C'est vous qui décidez. Alors que le chrétien, lui, c'est pas ça qu'il doit vivre. Il doit pas dire oh ben non mais par exemple j'entends des fois ça. Il y a une chose qui m'a toujours énervé depuis le début de ma conversion parce que j'avais eu le privilège d'avoir lorsqu'on se convertit, je suis arrivé à l'église dans une période où on prêchait des messages sur la croix. Donc, c'était toute une série de messages pendant peut-être 10 semaines sur la croix. Et alors après, il y avait des gens, des expressions, tu sais, le gars, t'as un rendez-vous à 10h avec lui, il arrive à 10h20, oh bah, il a qu'à attendre, il a qu'à prendre sa croix. Tu sais, c'est cette idée, en gros, presque on est des justiciers de Dieu, hein, on amène la croix dans la vie des gens, faut jamais oublier que c'est Dieu qui amène la croix. Si c'est nous qui amenons la croix, c'est que on se prend pour Dieu, d'accord? C'est Dieu qui doit nous amener à prendre notre croix. Mais là, lorsque donc on se lave pas les mains, on va pas dire non plus comme l'hypothèse que Paul énonce dans l'épître aux Romains ou l'épître aux Galates, vous savez. Ou mais alors s'il y a la grâce, si la grâce surabonde, est-ce que le péché va abonder? Ah non, c'est pas ça. On se lave pas les mains de cette manière. On se lave pas les mains de la même manière que Pilate. On se lave les mains. Pourquoi? Parce que on se lave les mains dans le sang qui nous rend innocents, c'est-à-dire où le sang a été on se lave les mains dans l'eau où le sang a été versé de la vache rousse, et ça nous parle du sang de Christ. Donc on se lave les mains parce que nous ne sommes plus coupables. C'est plus la même chose. On se lave pas les mains en disant moi je me décharge de toute responsabilité. Non, on se lave les mains dans l'innocence parce qu'on reconnaît que Christ a payé le prix et que c'est nous qui devions payer le prix normalement. C'est plus la même chose. C'est-à-dire que ça reste un acte de repentance où je reste coupable. Coupable, mais justifié par Christ et donc pas condamné. Parce que le jugement a été donné sur un autre, si vous voulez. Mais alors que lui, Pilate, c'est non, moi je suis pas coupable, je me lave les mains. Nous nous lavons les mains, mais pas à vide, comme ça. C'est pas des mains dans l'air et on fait un geste. Non, nous, on se lave les mains dans l'innocence, c'est-à-dire qu'on se lave les mains dans les résultats de l'œuvre accomplie, dans ce que Christ a fait, ce qui est plus la même chose. Parce que, du coup, on reconnaît ses fautes. Pilate, lui, il pense qu'il n'a pas tort. Alors que nous reconnaissons que nous avons tort, mais nous devenons innocents. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que de coupable que nous reconnaissons, je plaide coupable, mais je ne suis pas condamné parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ça, si c'est pas le message de l'Évangile, je veux dire, je vais me retrouver un peu comme l'apôtre Pierre en disant, attends, je vais pas me laver les mains simplement là, je vais plonger là dans la piscine. Rappelez quand Jésus lui dit, mais il faut que vous soyez, c'est moi qui dois vous purifier. Il dit, non, mais alors pas que les pieds, Seigneur, tout. Eh ben, mes amis, c'est fait. On a été purifiés par l'œuvre de Christ entièrement, mais par contre, il nous faut nous laver les mains régulièrement et abandonner le miroir que l'on a de soi, l'exaltation de nous-mêmes, et de se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je pense? Qu'est-ce que tu veux? Oui, comment tu veux que j'avance? Et ça renvoie à un principe dont Paul parle, et qui est très intéressant, et que vous connaissez tous, hein, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 13, Je rappelle, 1 Corinthiens 13, c'est le fameux chapitre sur l'amour. Mais il y a une petite parenthèse où il dit « Aujourd'hui », donc 1 Corinthiens 13, verset 12, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. » Ah, l'objet revient. « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. » Là, si on s'attarde un peu, on va danser de joie, vous allez voir. Qu'est-ce que Paul dit? Nous voyons au moyen d'un miroir. Je rappelle qu'à l'époque, un miroir, c'était quelque chose de très approximatif. Et donc ça nous parle de la vie chrétienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux me regarder selon les concepts que j'ai de moi-même. Le problème, c'est que le miroir ne sera pas fidèle. C'est-à-dire que le monde ne montre pas l'image, une image correcte de ce que je suis. Ma famille, peut-être, me communique pas une image correcte de ce que je suis. Dans l'église, peut-être que les gens ne me voient pas d'une façon spirituelle. Et moi-même, je me regarde peut-être avec une image déformée. Je vois, mais en même temps, je reçois la parole de Dieu, je découvre. Donc, il y a aussi une partie de l'image de Christ, l'image de Dieu que je suis dans l'œuvre accomplie qui apparaît. Donc, c'est, je me reconnais quand même. Ça s'appelle la sanctification. Je découvre qui je suis en Christ. Donc, il y a une partie de vrai dans cette image. Mais en même temps, c'est pas très exact. C'est assez flou. Donc, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Ce qui est intéressant, c'est, et c'est bien traduit en français, il n'est pas dit « je le verrai face à face » en parlant de Jésus, donc il ne s'agit pas de Jésus. Il n'est pas dit « je me verrai face à face » en face d'un miroir correct. Non, non, il dit « nous verrons face à face ». C'est-à-dire qu'on rentre dans une dimension, je dirais, moyenne, où c'est à la fois le regard de Dieu et mon regard. Pourquoi ? Parce que ce sera le même. Lorsque nous serons dans la présence de Dieu, nous serons comme lui, comme Jésus. Donc, on verra face à face, c'est-à-dire que lui me verra et moi je le verrai. Donc, on verra face à face. Ce sera parfait. Et il continue. Aujourd'hui, je connais en partie, vous voyez, il y a des choses qu'on connaît, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Et là, ça nous parle du regard de Dieu. Je connaîtrai comme j'ai été connu. Et en plus, il n'est pas dit, je connaîtrai comment je serai ou comme je serai. C'est, je connaîtrai comment Dieu m'a vu depuis un moment. En réalité, depuis que je suis son enfant, je connaîtrai comment j'ai été connu. Aujourd'hui, je vois d'une manière bizarre. Seigneur, comment tu me vois ? Ben, y a une glace. La glace, c'est la parole de Dieu, c'est le ministère du Saint-Esprit, mais en même temps mélangé aux pensées naturelles, c'est la chair, c'est les imperfections du monde qui nous entoure, église comprise. Donc on voit au moyen d'un miroir, et des fois, on se dit, oh là là, là c'est pas joli, c'est très déformant, vous voyez, c'est quand vous avez du mica ou du bronze, donc un miroir très, je dirais, rudimentaire, rustique, ben des fois, ça vous déforme plus que ça ne vous embellit, hein, d'accord. Donc, c'est moi, je me rappelle quand j'étais petit, on a tous fait ça, on nous faisait visiter le palais des glaces, vous savez, avec des miroirs déformants. Donc, des fois, tu regardes un miroir, mais des fois, les églises renvoient ce miroir-là, et ça rend les gens coupables. Des fois, c'est encore une fois notre culture, notre famille, notre passé qui nous revient à la figure, et là, on dit, oh là là, il y a un kyste là, il y a quelque chose. Mais en réalité, lui, Dieu nous voit parfait en Christ. Parfait. Et donc, un jour, eh ben, je verrai comment j'ai été connu. Et là, peut-être que je me dirais, mince alors, j'étais plus beau que ça. Ben, bien sûr que j'étais beau. Et je le suis donc, puisque je suis parfait en lui. Je me lave les mains dans l'innocence. Et regardez la bénédiction, je reviens au psaume de David, psaume 26. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel. Rappelez-vous que c'était l'objectif, c'était de s'approcher de Dieu. Et donc aujourd'hui, on a accès au trône de la grâce. Et donc, il y a de l'imperfection, il y a de la perfection, néanmoins, on est parfait en Christ. Et c'est pour ça qu'au verset 10, donc là je reviens à 1 Corinthiens 13, verset 10, « Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Ce qui est partiel, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. On vit quelque chose de partiel. Alors on peut être complètement rempli du Saint-Esprit et en même temps on vit quelque chose de partiel. Mais c'est, et d'ailleurs, faut être honnête, on est tous frustrés normalement hein, quand on est chrétien. D'un côté on est content, mais en même temps on n'est pas content d'être ici. Ben, je sais pas. Et puis Paul va dire en Romains 7 qui me délivrera de ce corps de mort. Enfin, je veux dire, c'est pas gai tous les jours, faut être honnête. Oui, mais c'est partiel, ça va passer. Parce que quand ce qui est parfait apparaîtra, ce qui est partiel va disparaître. Bon, ben, du coup, ça va. Vous savez, c'est un peu comme si vous visitiez un chantier, et je sais pas à qui je m'adresse ce matin, mais vous regardez un peu le plat, les murs et tout, je dis, oh là là là, oui, il y a eu de la construction, mais bon, je vivrai pas ici, hein, c'est pas en état. Oui, mais c'est partiel, ça va bientôt être terminé. Eh ben, nous, c'est pareil. Le chantier va être terminé et on est rassuré parce que, un, contrairement au monde d'ici, l'architecte est parfait, l'ouvrier c'est Dieu, il est parfait, et Dieu est à l'heure, c'est parfait. Le chantier sera terminé au bon moment. Et donc, on sera dans la splendeur d'une vision parfaite. Donc voilà, en 2 Corinthiens 3, et là pour le coup je terminerai là-dessus, en 2 Corinthiens 3, verset 18, on va commencer au verset 12. 2 Corinthiens 3, verset 12, Paul écrit ceci. « Ayons donc cette espérance, nous usons… » Alors, vous voyez, c'est une espérance, hein, c'est pas encore forcément aujourd'hui. « Ayons donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. » Quel est le contexte là? Moïse, c'est le prêtre, c'est un type de Jésus-Christ, c'est celui qui est l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Donc, il fait partie de la tribu de Lévi. Il n'était pas officiellement un prêtre, il était au-dessus, dans une période très particulière. Donc, il a reçu les tables de la loi, il est le libérateur pour Israël, il est un intermédiaire, il est dans la présence de Dieu. Et donc, le fait d'être dans cette présence irradiait son visage. C'est que quand il revenait de la présence de Dieu, wow, les gens, vous rappelez la transfiguration dans l'évangile de Matthieu, où il y a Jésus qui apparaît en gloire. Bah, c'était un peu, ça s'apparentait à cela, c'était pas exactement ça, mais voilà, son visage rayonnait parce qu'il avait été dans la présence de Dieu. Le problème, c'est que cette gloire, elle s'estompait petit à petit. Ça décourageait le peuple. Comme quoi, ça devait être super quand même, hein. C'est-à-dire qu'il devait goûter à l'éternité en voyant le visage de Moïse. Il devait se passer quelque chose. C'est comme s'il y avait un corps de résurrection presque qui apparaissait. Et donc, oui, mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, hors de la présence de Dieu, bah, cette gloire s'atténuait. Donc, pour pas décourager le peuple, bah, quand il sortait de la présence de Dieu, il mettait un voile pour pas qu'on voit cette gloire disparaître. Vous voyez un peu l'ambiguïté dans laquelle ils étaient. D'un côté, c'était super qu'il soit, d'une certaine manière, en partie glorifié, mais on préférait pas voir parce que, voilà, ça allait partir. Eh ben, Paul dit, faut pas faire comme ça. Il dit, on a une espérance, on a une grande liberté, donc ne faisons pas comme Moïse. Et au verset 18, il dit, nous tous qui le visage découvert, donc, vous voyez, on n'a pas honte, on cache pas. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. C'est-à-dire que d'un côté, on vit dans quelque chose de partiel, soit, mais ce partiel peut s'affiner quand même durant notre existence. Ça restera toujours partiel, mais nous sommes transformés de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de beau qui se passe en nous, en vous, mutuellement, ensemble. Et donc, ensemble, on n'a pas de voile. Parce que le voile a été déchiré entre nous et la présence de Dieu. On a été purifié par le sang de Christ. Et donc, aujourd'hui, on n'est pas encore ressuscité. On n'est pas dans ce corps de gloire. Mais il y a quand même une gloire qui apparaît et qui est de plus en plus forte. Et c'est l'amour qu'on va se manifester les uns envers les autres, parce que chacun, on va se purifier dans l'innocence, on va pas se croire le meilleur, et donc on va pas juger l'autre, on va pas se comparer, on va être libre, on va user d'une grande liberté, parce qu'on a cette espérance. Et donc on se voile pas la face. Nous sommes qui nous sommes, par la grâce de Dieu, et nous avançons comme ça, avec l'aide du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.